Bonjour à tous. Ils avaient un idéal, la fin de la ségrégation et des discriminations. 55 ans après le procès qui a condamné Mandela et ses 8 co-accusés à la prison à vie pour sabotage, que reste-t-il de la lutte anti-apartheid? Un film, Le procès Mandela et les autres, montre aujourd'hui comment ces hommes ont transformé leur procès en tribune politique à l'aide d'archives sonores des audiences récemment exhumées. À partir de 12h55, le réalisateur Nicolas Champeau et le traducteur Jean Guilouano seront avec nous. Mais d'abord, voix du Mali. La comédienne et chanteuse Fatoumata Diawara retrouve le devant de la scène avec son complice Mathieu Chédide et un nouvel album, Fenfo, avec lequel ou dans lequel elle chante l'amour, l'exil et le respect. Fatoumata Diawara est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Après l'aventure Lamo Mali avec Mathieu Chédide, Toumani et Sidiki Diabaté, 200 000 albums vendus et une victoire de la musique plus tard, elle revient avec un deuxième album solo, enregistré entre le Mali, le Burkina Faso, Barcelone et Paris, coproduit par Mathieu Chédide qui l'accompagne parfois à la guitare et au clavier, et Vincent Segal au violoncelle. Un album Fenfo qui s'ouvre sur une séparation, un départ, une absence, celui d'un être cher, N. Périni.
I want to know.
Canou, I want to know. Bonjour Fatoumata Diawara.
Bonjour.
Je tente. Hein. Que voulez-vous savoir dans cette chanson, I want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
En fait, elle veut savoir les nouvelles de son amoureux qui s'est aventuré voilà, un matin, très l'aube, un matin très très tôt et qui est parti et qu'elle n'avait plus de nouvelles et tout ça. Donc ouais. Elle veut savoir quoi, s'il est encore vivant, surtout.
Vers un pays lointain.
Exactement.
Et elle ne sait pas s'il est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cette chanson?
En fait, c'était une façon de parler de l'immigration, mais d'une manière normale, sans se plaindre, sans montrer le côté un peu dénigrant de l'Afrique, voilà, un peu misérabiliste, un peu, voilà, des enfants qui pleurent sur le bateau, qui veulent joindre la côte, voilà, un peu trop, on l'a trop vu pendant ces 5 dernières années. Et là, je voulais continuer à parler de ce problème très, très grave, mais d'une manière normale pour rappeler à tout un chacun qu'en fait, l'immigration ne peut pas faire perdre la dignité d'un être humain parce que nous sommes tous des immigrés au final. Et puis, c'est pas grave. En fait, l'humain a besoin de partir. L'humain ne peut pas tout apprendre à l'école. Ce serait tellement dommage. La planète est tellement vaste et si spirituelle. Parfois, la connaissance, la vraie connaissance, elle s'acquit seulement en se déplaçant. Donc l'humain, il part pas parce qu'il est pauvre. La pauvreté n'est pas la seule raison du départ. le départ, il est aussi dû au fait que voilà, tu veux changer d'endroit, d'espace, tu veux t'aventurer pour acquérir d'autres expériences.
L'envie de changer un peu les perceptions, vous dites sur l'immigration, on peut penser à ce symbole qui est devenu l'aquarius, qui n'en finit pas de faire la une de l'actualité au gré des voyages en mer et des refus rencontrés d'accoster sur les côtes européennes. Vous qui vivez, je crois, peut-être toujours entre le Mali et l'Italie, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se joue dans les regards des deux côtés de la Méditerranée? Comment cette même situation, elle est racontée ou perçue?
Ça dépend. Au Mali, c'est que ce soit en Afrique, les jeunes, j'ai l'impression que depuis quelques années, la jeunesse, à force de les refuser les visas, de la liberté de partir, ils se sont dit, ben, on se lance dans le bateau, on se lance sur la mer, on s'aventure, on y va, on regarde pas tout ce que les gens racontent sur l'Aquarius ou voilà sur la mer. J'ai l'impression qu'ils y croient quasiment pas. Ils veulent juste partir. Et de l'autre côté, quand ils y arrivent, maintenant il faut voir qu'est-ce qu'ils pensent. C'est vrai qu'en Italie, j'ai la chance de rencontrer pas mal d'immigrés. Et ils m'en parlent par rapport à, ils me parlent de ce qu'ils ont vécu et comment c'est dur, la dure réalité, et comment ils peuvent s'exprimer et raconter ça, pouvoir partager ça à d'autres jeunes qui sont encore en Afrique, s'ils peuvent rester en Afrique. Disons que moi, je pense que ce que je pense de cette histoire d'Aquarius et tout ça, je pense qu'on perd du temps avec cette histoire. Je pense qu'il faut ouvrir les frontières. Il faut laisser le monde voyager, se fusionner, s'ouvrir. Et on verra qu'au final, tout le monde retournera chez soi, parce que nul ne vaut la maison. Des fois, je mélange avec l'anglais. Nul ne vaut ta terre natale. Donc, je pense que l'humain, c'est quand tu lui dis non, c'est là même que tu le pousses à avoir un ego de vouloir faire les choses. Mais je pense qu'à partir du moment où on laissera la liberté à tout un chacun de voyager, au final, les gens resteront chez eux.
Mais là, vous êtes à contre-courant quand vous dites ça. Et vous qui habitez en Italie, on le voit aussi, le durcissement des discours médiatiques, politiques qu'il y a pu y avoir autour de cette question-là.
Non, moi j'ai ma maison au Mali. Moi, je ne suis pas en Italie.
Vous êtes des deux côtés.
Je suis en France, je suis en Italie, je suis au Mali. Je suis un enfant du monde. Mais j'ai la chance d'avoir cette liberté de vouloir partir et revenir. Ce qui fait que je suis de plus en plus attachée au Mali. Je rêve de rentrer tout le temps. Mais je pense que si j'avais pas cette liberté, avoir un passeport italien, j'aurais pas pensé pareillement. J'allais vouloir rester en France ou rester en Italie. Mais aujourd'hui, j'en demande de mon pays, de plus en plus. Parce que j'ai dépassé un cap. Je suis plus au niveau où on me refuse. Et je me dis, si c'était le cas pour tout le monde, peut-être que tout le monde penserait comme moi, les gens penseront à rentrer à la maison. J'ai ma maison maintenant, j'ai une très grande maison et je suis contente d'y être. Je me sens beaucoup mieux dans cette maison que nulle part ailleurs, à part la scène. Après la scène, quand je ne joue pas sur scène, j'aime bien être dans cette maison là au Mali.
Fenfo, c'est le titre de ce nouvel album, un seul mot en Bambara, votre langue maternelle que vous avez choisie pour chanter ces chansons. Là où en français, il nous en faut 5. Fenfo, ça veut dire j'ai beaucoup à dire. Est-ce que vous aviez un sentiment de trop plein, Fatoumata Diawara? Il y avait des choses vraiment qu'il fallait dire aujourd'hui.
Oui, moi j'ai le sentiment que je dois exprimer tout ce que j'ai pas pu exprimer pendant les 20 ans de ma vie, jusqu'à l'âge de 20 ans, de ma naissance jusqu'à l'âge de 20 ans. Tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais eu la chance d'en parler à qui que ce soit. Et là, j'ai l'impression que j'ai fait une renaissance à l'âge de 20 ans quand j'ai commencé à travailler avec le Royal de Luxe. Et j'ai compris que le chant est un moyen d'expression. Du coup, quand j'écris les chansons, j'essaie d'ouvrir des petites portes de toutes les expériences que j'ai eues à vivre, que j'ai vécues quand j'étais enfant. Et j'essaie d'en parler, mais tout en ouvrant la porte à d'autres personnes, ou d'autres enfants ou d'autres femmes qui ont pu être ou qui sont toujours dans ma situation, pouvoir les aider et pouvoir les aider à s'en sortir. Parce que je me dis survivante. Pour moi, je suis une survivante. Mais au lieu de parler que de mes problèmes, de trop retourner mes textes vers moi-même, j'essaye d'ouvrir. Parce que je suis une immigrée. Moi, je me suis enfuie un soir de ma famille. Je suis partie. J'ai pris Air France et pendant 6 ans, Mes parents n'ont jamais su si j'étais vivante ou pas. Il y avait même la rumeur au Mali. Comme j'étais un peu populaire à travers le cinéma, j'ai commencé très tôt à être actrice au cinéma. Donc tout le monde parlait de cette jeune fille-là qui était tout le temps à la télé sur les pubs. Les gens disaient qu'elle était au Vietnam, d'autres disaient... J'étais devenue une légende au Mali après ma fuite. Donc je suis une immigrée. Donc quand je parle d'une Térini, je sais de quoi je parle en quelque sorte.
Mais vous avez fui quoi et vous avez survécu à quoi?
Ah, longue histoire. Très longue histoire. J'ai vécu pas mal de choses à mon jeune âge. Des fois, j'ai l'impression que j'ai 50 ans ou 60 ans. Je me sens pas
vous
jeune.
Pas,
je,
hein.
je me sens très âgée dans l'âme. Parce que la vie m'a abordée très vite. J'ai été affrontée par des choses très, 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 très dures au jeune âge. Donc, ce qui fait que mes textes vont être tournés toujours vers des enfants. Parce que j'ai pas vu mon enfance passer à cause de la pression des adultes. Les adultes m'ont quasiment privée de mon enfance. Donc, je vais beaucoup chanter des adultes, je vais beaucoup parler des enfants, mais je suis toujours du côté des enfants, comme si je suis une éternelle enfant, comme si j'ai peur de grandir, comme si je vais peut-être jamais grandir. Et c'est pas si mal que ça, parce que il y a des artistes qui me disent, ne perds pas ton enfance. Mulatu me l'a dit, le Kwakanza me l'a dit, ou Sangaré me l'a dit, même Herbie Hancock. Des gens qui me connaissent me disent toujours, garde ton enfance, ne perds pas cette innocence. Et je préfère rester cet enfant, mais pas aussi naïf que les gens pensent être.
Alors si on se balade au fil des titres et des chansons de ce nouvel album, il y a Bonia, qui veut dire respect en français, comme un rappel, dans un monde qui commence peut-être à se faire remarquer par son absence de valeur. Et puis il y a ce titre, Mama, accompagné par la kora, la harpe emblématique d'Afrique de l'Ouest, qui est une sorte d'hommage réconciliation à votre mère.
Exactement.
Si j'en comprends les sonorités. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose?
Oui,
ou je continue à me balader.
Maman, c'est l'une de mes premières compositions. Je l'avais composée, on va dire, depuis 2007, un truc comme ça. C'est vraiment l'un des vieux morceaux que quand mon manager a écouté, il a dit, il faut absolument qu'on le mette dans l'album. Et c'est un album, c'est une chanson avec laquelle je me réconcilie avec mon passé, parce que c'est mon premier album. Finfou est mon premier album en tant que mère. Donc quand je parle de maman, je parle de maman dans tous les sens, en tant que mère et aussi en tant qu'enfant qui n'a pas connu sa mère. En tout cas, enfin, j'ai pas grandi avec mes parents. Donc j'ai cette absence-là de la vie, de dire maman. Pour moi, c'est le mot, c'est le nom le plus sacré. Maman est devenue, n'est plus banale pour moi. Maman a un sens. Donc quand mon fils m'a appelé pour la première fois maman, ça avait beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait beaucoup de choses. Car moi, je n'ai pas dit maman. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que dire maman, d'être enfant et pleurer pour des choses, pleurer, être juste un enfant, quoi, se plaindre, juste... Savoir que tout va bien, mais se plaindre quand il le faut. Donc, je ris beaucoup quand mon fils, il est comme ça. J'admire et je découvre. Je découvre mon enfance avec lui. Je découvre plein de choses avec lui. Donc, cette chanson, elle est sacrée.
Et c'est aussi un apprentissage, ça, être mère.
Exactement.
Hein, il a fallu construire, déconstruire peut-être ce que vous en aviez de négatif aussi, comme stéréotype. Et puis aujourd'hui, apprendre à l'être vous-même. C'est un album qui appelle à la fois à renouer avec ses racines, à faire vivre les cultures, comme dans Kokoro, où vous chantez « Ne tournons pas le dos à nos traditions, acceptons-les, soyons fiers d'elles », avec toujours cette voix chaude et rocailleuse qui est la vôtre. Mais Fenfo, c'est aussi un album qui appelle à rompre avec des traditions qui emprisonnent, avec ces impossibles qui empoisonnent, comme dans Canou d'Anienne, les limites de l'amour qui raconte un amour interdit, entre autres, entre un Peul et une Soninke. Thank you. cette chanson, Fatoumata Diawara, c'est aussi un plaidoyer pour des unions choisies, la fin des mariages forcés, mais aussi contre tout ce qui entrave l'amour, les traditions, les interdits, cet amour libre.
Ben,
il fallait le faire vibrer.
Ben oui, il fallait le faire vibrer parce que, comme j'ai vécu en France pendant presque 15 ans de ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, des enfants nés ici, issus des parents immigrés, qui vivent dans cette situation-là. Ils sont pas nés au Mali et ils comprennent pas que leurs parents s'opposent par rapport à leur choix de mariage. Hormis le côté mariage forcé, mais aussi ceux qui sont libres d'aimer un voisin arabe ou un peul ou un voilà, j'ai fait un lien un peu entre ce qui se passe au Mali et que cette tradition qui est aussi reproduite entre la tradition malienne, on continue à pratiquer les mêmes traditions. Donc dans la chanson, c'est un coup de fil entre deux amoureux qui s'aiment et qui disent ben il va falloir qu'on arrête notre amour parce que je sais qu'on a perdu d'avance, nos parents vont jamais accepter. C'est assez intime et à la fois très, pour ceux qui comprennent la langue, c'est émotionnel, c'est très sensible cette conversation. Elle est censée se passer entre deux personnes. Et en même temps, j'espère que les parents qui vont écouter ce morceau imaginent leurs enfants en train de parler dans leur dos. C'est comme ça que les enfants souffrent. Que les parents fassent face à la souffrance qu'ils causent à leurs enfants. Comment la jeunesse souffre par rapport à une tradition comme, voilà, se marier à un peul ou à un saracolé ou au final. Nous avons tous le sang rouge et tous les sangs sont purs. Et comment est-ce qu'on peut adapter la tradition à la nouvelle génération pour que les enfants puissent être heureux, tout simplement, parce que la vie est courte. La vie est tellement pas facile que si en plus tu dois passer, mettre toute ton énergie à sélectionner tes amours à cause de tes parents ou de tes cousins-oncles ou quoi que ce soit, c'est quand même, c'est assez mesquin, je trouve, c'est un peu dur. Donc pour voir si on peut trouver une solution quoi avec nos parents pour voilà adoucir un peu nos certaines traditions.
Dans un autre titre, Takamba, je le prononce bien ?
Oui, Takamba.
Vous rappelez que l'amour ne peut servir aussi de circonstances atténuantes quand on frappe ou quand on tue. Il y a eu une affaire récemment au Mali, l'affaire Fanta Sekou Fofana, qui a été très médiatisée parce que la jeune femme qui a été assassinée par son mari travaillait au palais présidentiel. Est-ce qu'elle a fait avancer la cause des femmes, cette affaire ? Est-ce qu'aujourd'hui la loi est plus protectrice ?
Non, pas du tout. On a encore beaucoup à faire sur ce plan. On a encore beaucoup à faire et c'est pas que au Mali d'ailleurs. Je pense qu'il y a un peu partout dans le monde entier. On connaît ce cas, mais il y en a tellement dans le monde. Il se passe tellement des histoires comme ça qu'on en sait. On n'en sait même pas. On n'en sait même pas tout. Et moi, je pense que il est temps qu'on donne une chance à la femme, qu'on la donne sa liberté, qu'on l'aime, qu'on arrête de maltraiter les femmes dans les zones de guerre, que ce soit du Mali ou ailleurs, partout dans le monde entier. Donc j'ai choisi ce morceau et un rythme spécifique qui est le Takamba, qui vient du nord du Mali, qui est un endroit aujourd'hui très affecté par la guerre, on va dire. C'est un endroit très très, voilà, il se passe beaucoup beaucoup de choses et malheureusement pas des bonnes choses pour les femmes et ni pour les enfants. Donc du coup j'ai choisi un texte où une femme décide de s'émanciper, qui dit voilà, ne me bats pas, tu es censé m'aimer, ne me maltraite pas, homme. Tu es censé me voir comme une sœur. Tu es censé me voir comme une mère. Je suis celle qui donne la naissance. Je suis celle qui t'aide enfin pour la progéniture. Je suis celle qui est censée te protéger. Je suis la force. Je suis l'amour pour toi. Ne me viole pas, l'homme. Donc ça, c'est des phrases que j'essaie de dire, mais à travers toutes les femmes qui vivent dans les zones de guerre, qui subissent le viol, qui subissent la maltraitance. Mais on n'en parle pas parce qu'il y a d'autres problèmes plus graves peut-être pour l'humanité par rapport à toutes ces problématiques. Donc c'est à nous les femmes de prendre la parole enfin. Et moi j'essaie d'être la voix de toutes ces femmes.
Et aux sources de cette maltraitance, il y a tout simplement l'inégalité, les inégalités entre les hommes et les femmes partout. Exactement. Dans le monde. Et vous le rappeliez encore récemment au festival Gnawa à Essaouira au Maroc. que dans le milieu musical y compris, il est encore difficile pour une femme de s'imposer. Pourquoi y a-t-il par exemple si peu de femmes instrumentistes reconnues, avez-vous dit, sérieusement, à part Nina Simone? C'est parce que traditionnellement, les instruments sont sacrés et que nous, nous devons pas les toucher pendant nos règles, car nous sommes considérés comme impurs, c'est complètement fou, et il faut changer ces pensées moyenâgeuses. Pour cela, il y a la musique, Fatoumata Diawara, et il y a aussi les images. Les corpins de Aïda Mulunet, pour la partie visuelle de l'album, vous vous êtes associée à cette artiste et photographe éthiopienne, la fondatrice du Addis Photo Fest, réconciliant l'Ouest et l'Est de l'Afrique. Elle a passé une partie de sa vie au Canada, elle a travaillé comme photojournaliste au Washington Post. Elle dit qu'avec ses photos, elle veut garder une trace de tous les lieux où elle est passée, de tous les regards qu'elle a croisés. Vous avez parfois, vous, peur, comme elle, de perdre un peu la mémoire, d'oublier d'où vous venez. Il y a aussi l'envie, avec vos chansons, de figer cette mémoire, d'en laisser une trace.
C'est vrai. C'est vrai. L'image est très importante pour moi. L'image est extrêmement importante. Je sais pas, je pense que des fois, c'est dû au fait que je viens du monde du théâtre, parce que j'ai commencé le cinéma à l'âge de 14 ans. Ou voilà, avant de monter sur scène, pendant 2 heures, tu dois t'habiller, tu dois te maquiller, tu dois te préparer. Les préparatifs prennent plus de temps que même le temps du tournage. Et j'ai gardé un peu ce bagage-là, enfin, cette expérience, voilà, du cinéma et du théâtre. Et, pour moi, travailler avec Aïda, elle embellit ce que nous faisons. Pour moi, l'image, elle est très importante, même si tu chantes. Le chant peut être aussi un cinéma, ça peut être de la peinture, ça peut être à s'associer. Disons que la musique peut s'associer avec tout ça, le cinéma, le théâtre, la peinture et tout.
On va l'écouter, si vous voulez bien, parler de ces visages peints, de ces corps peints qu'elle a fait pour vous pour cette pochette.
Commencer avec les visages peints, cela symbolise le fait que nous portons tous des masques pour avancer dans la vie, que nous portons tous des masques pour cacher nos intentions. Mais sur le même plan, j'essaie aussi de prendre des éléments traditionnels de ma société ou de ma culture et de les apporter dans le futur. Donc par exemple, si vous regardez le vêtement qu'elle porte, les rayures, en fait, c'est un habit qui vient du Sud. Alors, pour un public occidental, vous ne voyez que les imprimés ou les couleurs. Mais pour des Éthiopiens, il y a des symboles spécifiques que j'ai mis dedans. Un genre de code à l'intérieur, qui est une combinaison des différents groupes ethniques qui existent en Éthiopie et qui se combinent à l'intérieur de cet élément. Et le plus intéressant, c'est que quand j'expose ce travail dans différentes parties du monde, il y a toujours un point de connexion. Par exemple, les Japonais me disaient « cela ressemble un peu à la geisha », etc. Même ici en Afrique du Sud, quelqu'un de l'ethnique Xhosa me disait que cela lui rappelait la manière dont les chefs spirituels se peignent en blanc pour être plus proches du divin. Donc c'est une vue globale, mais essentiellement c'est juste que j'utilise ces formes comme une manière de créer un canevas. Donc j'ai sélectionné spécifiquement les femmes et le contexte, les thèmes, les couleurs. Je travaille surtout avec des couleurs primaires. Mais au-delà de ça, la question, c'est d'avoir ce dialogue et d'être capable de prendre ce qui est à l'intérieur de moi et de le sortir pour le mettre dans l'image.
Aïda Mulunet, lors d'une conférence TED où elle racontait comment elle se sentait en transit, un peu comme vous, entre un passé qui n'existe plus et un avenir à venir. Après Toumouctou du franco-mauritanien Abderrahmane Sissako, multi-césarisé, vous serez également de retour bientôt sur grand écran dans Tout couleur de Philippe Godot. Vous êtes d'une famille d'artistes, vous l'avez évoqué, Fatoumata Diawara, tante comédienne des débuts au cinéma, puis le théâtre, la mise en scène avec la troupe royale de luxe et les Bouffes du Nord pour Antigone sur une mise en scène de Sotigui Kouyaté. Là, on vous retrouve au micro avec votre guitare. On va se quitter en musique, en live. Merci pour ce cadeau de début de semaine, extrait de votre nouvel album solo, Fenfo.
Ningolo fa bere nyininga ma vemwanye Ningolo fa bere nyininga ma vemwanye Nimbali ma bere nyininga ma vemwanye Ho dunya na tiya ve taneni ma vemwanye ala Yeah. ne wolofa wolofa bagari wele teri mo vinyo fala dodo ja una ima fenvonye a sigi yo ma ube yo fala dodo dia yo mama una ima fenvonye a chegele de ube Odiana tie bedane ama vevonye Odiana tie bedane ama vevonye muna Kuma vevonye
Diawara en live dans les studios de France Culture. Merci beaucoup pour ce cadeau de début de semaine. Merci mille fois. On vous retrouvera très bientôt au Magic Mirror. Ce sera demain soir dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival. Jeudi à Périgueux, mi-novembre à Genève, à l'Alhambra, et le 11 décembre au Trianon à Paris, avec plein d'autres dates encore. Sortie donc de votre nouvel album solo, Fenfo. Merci mille fois à vous, Fatoumata Diawara.